Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Isabelle Job-Basile, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques, qui a publié les plus belles histoires de l'escroquerie du collier de la reine à l'affaire Madoff au Seuil, à la une du numéro novembre qui devrait s'afficher sur l'écran, retraite. Pourquoi il est absurde de reporter l'âge de départ? Je demanderai à Christian, je lui poserai cette question, puisque ça fait partie notamment des recommandations du fait de la fameuse note du FMI qui a été publiée hier. Et Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité directeur de la d'Espérance banlieue.
C'est stratégique.
Comité stratégique. Bon, il faudra quand même que je me le note définitivement. L'IRA, qui n'a rien à voir avec l'Irlande, hein, de Biden, ça vous hérisse le poil, ah, Laurent Vronsky?
Oui, parce que donc pour nos auditeurs, donc c'est la nouvelle arme fatale dont se dotent les États-Unis. Il ne faut pas s'y tromper. C'est une arme de réindustrialisation massive. C'est sans doute un ensemble de dispositions qui sont sans doute les plus protectionnistes depuis les années 30, qui est complètement contre le libre-échange, etc. Et donc, ça veut dire que nous, par rapport, je dirais, à cet ensemble de lois, c'est pas la première fois que l'Amérique se dote d'outils absolument redoutables, comme l'extraterritorialité. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez être redevable vis-à-vis de la justice américaine si vous faites une transaction en dollars n'importe où dans le monde, hein, même à Bécon-les-Bruyères. Hein. Et donc, face à ça, j'ai l'impression que je sais pas, il se passe pas grand chose. Et moi, je suis assez catastrophé parce qu'il faut pas rêver, quoi. Je veux dire que ça veut dire forcément un impact absolument substantiel sur l'économie de la zone euro, sur nos entreprises, et que le seul moyen pour nous de réagir par rapport à ça, c'est de faire corps et une fois de plus de se retrouver entre Européens et que chacun prenne pas sa petite valise de VRP pour essayer de sauver ses intérêts. Je veux dire que par rapport à une loi aussi massive, on doit nous aussi Européens trouver la riposte à ça. Donc quand j'entends parler de cette loi et que pour l'instant je ne vois pas la contrepartie, je dois vous avouer que c'est une source supplémentaire d'inquiétude. Et je pense qu'en ce moment, on n'en a pas besoin.
Alors, une réaction à ça?
Non, mais pour ceux qui nous écoutent, donc en fait, me semble-t-il, donc c'est des crédits d'impôt pour des achats d'équipements, en particulier pour des achats d'automobiles aux États-Unis, où vous avez une modification de 10% si 40% de l'équipement est produit aux États-Unis. Et là, pour le coup, on a un aspect discriminatoire qui fausse la concurrence, qui pourra amener les Européens, s'ils le souhaitent, hein, s'ils font bloc, d'aller à l'OMC pour faire valoir leurs droits et de dire qu'on est dans une concurrence déloyale ou de subvention. Enfin, ça doit tomber dans le régime des subventions qui sont pas compatibles avec les règles de l'OMC.
Il n'y a que les Européens qui croient au libre-échange et à la concurrence libre et non faussée. Tous les pays asiatiques, Chine en tête et les États-Unis et gouvernement américain en tête, ne pratiquent pas le libre-échange, ne pratiquent pas la concurrence libre et non faussée. Ça, depuis les années 60, les grandes innovations américaines sont faites avec de l'argent public, avec de la subvention publique, avec des contrats et de la commande publique. Alors nous, les pauvres Européens, on est là, mais non, mais il faut de la concurrence et puis surtout, pas besoin de réciprocité. Nous, on ouvre nos marchés, vous, si vous ne les ouvrez pas, c'est pas grave parce que nous, on va être le lourd avis de la crèche libérale. Ben voilà, ça ne marche pas. L'IRA, quand même, c'est quand même deux choses. Il y a tout ce qu'a dit Laurent. Il y a aussi le plus gros effort public, d'investissement public aux États-Unis pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est quand même quelque chose de très très important. Enfin, les États-Unis s'y mettent. Enfin, donc ça, je prends. Pour l'autre côté, mais c'est la poursuite de ce qui se fait depuis 50 ans. Donc, pour l'instant, on n'en est pas encore à l'OMC parce que les représentants européens sont en train de négocier avec les États-Unis. On nous dit, je ne sais pas si c'est vrai, on nous dit, les Américains n'avaient pas vu l'effet que ça allait avoir sur... Et donc maintenant qu'on leur montre que l'effet peut être très important pour leurs partenaires européens, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont faire que... Mais qui est à la manœuvre? C'est peut-être pour ça que ça va réussir. C'est l'industrie automobile allemande. Et donc c'est le gouvernement allemand, parce que c'est eux qui vont notamment être les premiers touchés. Mais ne croyons pas qu'on était dans un monde de libre-échange et que tout d'un coup les États-Unis sont les méchants. Ils ont toujours avancé comme ça. Et maintenant quand vous regardez sur l'aspect technologique, je viens de lire deux études, dont une de la Commission européenne, absolument affolant, en termes d'innovation technologique, notamment aidé par le gouvernement américain, les États-Unis restent le leader mondial et la Chine est en train, sur toutes les grandes révolutions technologiques, la blockchain, l'ingénierie du génome, etc., les 5-6 plus grandes, est en train de dépasser, soit est au niveau, soit déjà largement dépassé l'Europe. L'Europe est en train d'être marginalisée sur le plan technologique. Vous avez peut-être vu hier, enfin, va s'ouvrir aujourd'hui ou demain les aspects spatiaux et les responsables de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, nous disent si on ne fait pas plus 25% plus 25% par an de budget, on est mort aussi dans le spatial. L'Europe est en train de devenir un nain économique déclassé sur le plan technologique. Les mots sont forts, mais déclassé sur le plan technologique mondial. C'est quand même gravissime.
Et il y a une étude qui est faite par la Commission européenne dans le cadre de l'autonomie stratégique, où ils avaient regardé sur les grands secteurs de technologie de demain, ce dont ils avaient besoin, et de montrer nos dépendances. Et effectivement, ce qui ressort autant en termes de matières de première que de composants, que de filières de raffinage pour ces matières premières, que d'assemblage, c'est soit la Chine, soit les États-Unis, et un peu l'Afrique sur les matières premières.
Laurent, oui, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, c'est-à-dire que je sais qu'on va aborder le sujet de la tentation de délocaliser suite à la remontée fulgurante des coûts énergétiques, mais il y a deux vraies raisons qui peuvent inciter les entreprises à aller aux États-Unis. Il y a l'IRA, ça en fait partie. C'est-à-dire que si aujourd'hui le fait de ne pas produire localement aux États-Unis, ça vous déclasse au niveau économique, vous n'êtes plus compétitif. Donc il y a deux bonnes raisons d'aller aujourd'hui aux États-Unis. Il y a l'IRA et il y a la facture électrique. Maintenant, sur ce que dit Christian. Alors, je veux dire, je ne pense pas être frappé d'angélisme. Pour une raison très simple, moi j'ai vécu 8 ans aux États-Unis. Donc j'ai très bien vu ce qui se passait. Quand on parle, par exemple, de SpaceX avec Elon Musk, il faut bien être conscient que c'est un projet public mené par un entrepreneur.
Les vaccins, ça a été la même chose.
Là-dessus, je veux dire, quand vous allez à la Silicon Valley, je veux dire que l'un des premiers investisseurs historiques, c'est le gouvernement américain. C'est pour ça qu'encore une fois, il ne faut pas être frappé d'angélisme. Donc moi, je ne suis pas là, si vous voulez dire, les Américains ne sont pas gentils et nous, on est gentils. Simplement, je suis toujours un petit peu étonné, je ne fais pas une leçon de choses à l'antenne, je suis toujours un petit peu étonné de cette espèce de naïveté auquel on a fait face vis-à-vis de nos alliés américains, ce sont nos alliés, vis-à-vis des Chinois, effectivement, on ouvre les marchés, on met des normes en place, on ne vérifie pas que ces normes soient respectées. On est inondé de produits qui sont faits dans des conditions qui n'ont rien à voir avec nos critères. Enfin, vous connaissez ça comme moi. Et effectivement, après, on est par contre les champions du monde pour faire des statistiques pour calculer les dommages. Voilà, les pertes. Bon.
Et ensuite, on se répartit les pertes.
Voilà.
Et comment
là, maintenant, je pense qu'on est vraiment un carrefour de l'histoire. Et je pèse mes mots. Je pense qu'on a deux challenges absolument phénoménaux. Il y a d'abord un vrai challenge avec un tsunami énergétique. Et ça, moi, je ne sais pas comment ça va se résoudre. Mais il faut que l'Europe s'arme. Je dis bien l'Europe et pas chaque petit pays. Et deuxièmement, je pense que l'IRA est une arme de réindustrialisation massive des États-Unis et que nous, Européens, si on ne veut pas devenir complètement à la marge, je veux dire que ce n'est pas compliqué, si on n'est pas à la table des négociations, on va finir au menu, quoi.
Oui. Et puis en plus, on se retrouve, je trouve que l'Europe aujourd'hui, si on regarde ce qui s'est passé avec les crises, en fait, finalement, un des grands gagnants de la crise, je dirais, si ce n'est pas le seul grand gagnant de la crise, outre les pays producteurs de gaz et de pétrole, ce sont bien les États-Unis.
C'est les États-Unis, au travers.
Et on aurait tendance à voir que on est de plus en plus vassalisé par les États-Unis sur les questions énergétiques, où on va chercher le gaz naturel liquéfié, c'est de plus en plus aux États-Unis. On a ce parapluie de l'OTAN qui s'est même renforcé à l'occasion de la crise, avec des États-Unis qui ont pas mal d'atouts en termes d'indépendance énergétique, en termes d'autosuffisance alimentaire.
Ils ont le dollar
qui est effectivement...
Et technologiquement,
et la technologie. On a l'impression qu'effectivement, le maillon faible...
Mais on est tous d'accord, le problème c'est que les réponses opérationnelles à ce que vous décrivez tous, elles sont pas là.
C'est surtout qu'elle doit se décider au niveau européen. Ce n'est pas chacun des pays qui doit faire sa petite cuisine et effectivement aller prendre son bâton de pèlerin pour essayer de grignoter quelque chose dans ce monde conflictuel.
Mais les réponses que tout le monde réclame, c'est beaucoup plus de dépenses publiques pour l'instant. Je ne sais pas si on va parler du fait qu'on a trop de dépenses publiques en France, mais là, tout ce que vous réclamez, c'est plus de dépenses publiques. Faut quand même
on n'a pas de budget européen, donc ça te le fout, ou quasi pas.
Ou une somme nationale, des sommes nationales.
Ne pas être dupe, ne pas être naïf, pas ouvrir ses marchés sans avoir une ouverture en contrepartie. Ça, c'est pas la dépense publique. Ça, c'est du bon sens économique.
Toute la commande publique qui fait le développement technologique des États-Unis, ça n'a pas été fait gratuitement.
On est d'accord.
Beaucoup de commandes publiques, c'est des points de PIB.
Mais ça a été aussi une stratégie américaine qui est juste l'inverse de la stratégie souvent utilisée par les pays européens, où on fait des investissements d'avenir, on arrose un peu partout et on ne sait pas trop où ça atterrit. Aux États-Unis, c'est les projets viennent d'en bas et effectivement, ceux qui sont considérés comme des projets vraiment d'avenir, à ce moment-là, peuvent être sélectionnés et financés par de l'argent public.
C'est souvent par le militaire.
La fameuse Barda.
Oui, impulsé par le militaire, par les dépenses militaires.
Et on a le droit de se tromper. L'année où les États-Unis donnent 500 millions de dollars à Tesla pour se développer, ils donnent aussi 500 millions de dollars à Solingra, qui est une entreprise américaine qui va faire des panneaux photovoltaïques complètement pourris et qui va tomber en faillite. Et donc on dit, regardez, l'État ne peut pas choisir, sauf que la même année, l'État a choisi Tesla. Le problème, c'est que quand l'État se comporte comme ça en manière technologique, comme un acteur private equity qui vient apporter...
C'est à peu près ça, oui.
C'est à peu près ça, qui vient apporter...
sait qu'il y aura des pertes.
Fait ses choix, il y a des paris gagnants, des paris perdants. Quand le pari est perdant, ok, bah l'État prend la paume. Mais quand le pari est gagnant, par contre, le private equity, eux, ils touchent ce qu'ils ont mis. Mais l'État américain, il ne touche rien du tout. Alors, après, s'il y a des profits, il y a des impôts. Mais il faudra une sorte, si l'État joue, et comme le joue l'État américain, le rôle du private equity pour développer les nouvelles technologies, à ce moment-là, il va y avoir un retour sur investissement de l'argent public. Et pour l'instant, il n'y a pas
sur. On va avancer quand même.
Non, mais c'est juste l'idée Isabelle qu'on privatise les profits et qu'on socialise les pertes.
Exactement.
Vous vouliez Oui, alors par rapport à ce que dit Christian, je veux dire qu'aujourd'hui, notre pays, je trouve un magnifique outil qui est très très performant, c'est BPI. Et je veux dire qu'aujourd'hui BPI fait du private equity, je veux dire que c'est un organisme public, mais je veux dire fait un travail sur le terrain qui est absolument remarquable. Je ne suis pas subventionné par BPI, je le tiens à le préciser, mais je veux dire que moi j'ai été dans un accélérateur industriel, c'est absolument formidable, ils sont sur le terrain, ils font des financements, ils trouvent des solutions à des entrepreneurs. Donc je veux dire enfin, je veux dire on a quelque chose, je dirais qui est pas mal. Maintenant si on pouvait faire ça au niveau européen.
Oui, mais parce que BPI a réussi à installer son indépendance, à fonctionner de manière comme une vraie banque.
Absolument.
Et la présence de Nicolas Dufour qui est sûrement pour beaucoup, parce que souvenez-vous, au début, on a un peu redouté que ce soit la chambre d'enregistrement des désirs politiques en fonction de la météo,
de la météo des urnes.
Et puis aussi, je vais juste terminer quelque chose, parce qu'on est une puissance normative en Europe et on peut aussi beaucoup jouer sur. On peut essayer de jouer sur les normes et les standards internationaux.
C'est terrible, on n'arrête pas de se désespérer de tout là depuis un quart d'heure.
On est une puissance normative, notamment sur les critères ESG. On est plutôt en avance de phase.
Regardez-le. RGPD, on est une puissance normative. C'est complètement contourné par l'Irlande. Regardez REACH, on est la première zone au monde à avoir mis en place des normes pour éviter que les produits chimiques qui sont dangereux soient là. Vous regardez, il y a un sociologue qui a pris 3 ou 4 produits très dangereux. REACH dit produits trop dangereux, il ne faut pas les mettre sur le marché. Ils y sont toujours, parce que le temps que la procédure se mette en place, que les entreprises répondent, que machin, ils sont toujours vendus aujourd'hui. Donc la puissance normative, moi, j'y crois pas. Enfin, oui, c'est vrai, mais avec peu d'efficacité.
Il y a cet auditeur qui s'appelle Boris qui m'écrit votre invité devrait reconnaître que l'une des explications majeures de la hausse des embauches est quand même le fruit des réformes du droit du travail. On l'évoquait en début d'émission avec vous, Christian Chavagnier.
Il s'est dit que le coût du temps, évidemment, quand on est au niveau macroéconomique, chaque chef d'entreprise et moi, en tant que président du CA d'Alter Eco, je vais vous dire non, c'est pas vrai dans mon entreprise, mais l'INSEE nous dit que le coût du travail, c'est 18%.
Il n'y a pas que le coût du travail, il y a toutes les réformes El Khomri et Pénico, qui n'étaient pas que des réformes de coût du travail.
Oui, mais en tout cas, c'est une part 18%. Bon, c'est quand même pas la part la plus importante. Mais chaque entreprise vous dira que son cas est particulier.
Laurent Vronsky.
Non, moi je pense pas que mon cas est particulier. Je mets ma casquette croissance plus. Donc des chefs d'entreprise, j'en rencontre toutes les semaines. Et puis moi, j'ai pas besoin de l'INSEE. Je regarde le code du travail avec lequel je dois vivre 365 jours par an. Puis je regarde les feuilles de paye que nous payons tous les mois. Donc cet auditeur a parfaitement raison. Je veux dire que les choses se sont assouplies et c'est tant mieux. Et plus le marché du travail est flexible, plus ça va nous aider à épouser un relief qu'aujourd'hui, personne ne peut prévoir. Il faut bien être conscient d'une chose, et je ne suis pas en train de me lamenter, on nous demande aujourd'hui de conduire une voiture à haute vitesse avec une pluie battante, et il y a les essuie-glaces qui ne fonctionnent plus. Donc, en clair, on a une visibilité qui est au niveau des phares.
Christian, j'aimerais avoir votre avis sur la réforme de l'assurance chômage. C'est quand même l'un des sujets qui est au sommet de l'actualité. Donc, on a maintenant les arbitrages. Je ne vais pas vous refaire tout le détail des chiffres qui font qu'on passe de période rouge à période verte. En tout cas, la clé, c'est qu'en fonction de la météo de l'emploi, eh bien, il y aura une diminution de la durée d'indemnisation d'un quart. Ça veut dire que là où, avec tous les droits, on pouvait avoir jusqu'à 24 mois d'indemnisation, on tombera à 18 mois. Et il est vrai que si on a ouvert que 10 mois, par exemple, eh ben, on perd un quart, on perd 2 mois et demi d'indemnisation. Les Échos écrivent aujourd'hui, c'est une bien sage réforme du chômage. Qu'en pensez-vous, Christian Chavagneux?
C'est accablant. Franchement, c'est accablant.
Dites-moi pourquoi, mais je vous écoute.
Parce que le jour où il y a des chômeurs qui retrouvent du travail, ceux qui ne retrouvent pas de travail vont être punis. C'est quand le chômage baisse, quand on passe en période
verte.
Quand on passe en période verte, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient au chômage et qui ont retrouvé du travail. Et tant mieux pour eux. Ah, mais vous n'avez pas trouvé de travail. Eh bien, puisque vous, il y a des chômeurs qui ont trouvé du travail, vous n'en avez pas trouvé, eh bien, vous allez être puni. Alors, déjà, 6 mois de moins. Et combien ça peut rapporter? On dit 3,5 milliards, 4 milliards.
Les syndicats disent 4 milliards par an.
4 milliards. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut prendre un exemple concret. Monsieur Ferracci, qui est le rapporteur de la loi, qui est député Renaissance pour les Français de la Suisse et du Liechtenstein, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous dit dans le JDD, à chaque fois que vous allongez d'une semaine la durée d'indemnisation, vous incitez les gens à rester entre 0,1 et 0,4 semaines de plus au chômage et à pas sortir, d'accord? Prenons le 0,1. Mathieu Grégoire, qui est un spécialiste du travail, a fait ce petit calcul. Prenons quelqu'un, il faut prendre des exemples concrets. Quelqu'un qui gagne 2000 euros, qui va se voir privé de 6 mois, d'accord, 6 mois de moins, d'indemnisation chômage. Si c'est 0,1, si on a gagné 0,1 de chômage, on a gagné 18 jours de chômage. Il va perdre 6 000 euros. Donc, pour quelqu'un qui va rester 18 jours de moins au chômage, vous allez le priver d'un pouvoir d'achat de 6 000 euros. Voyez le coût accablant que vous faites peser sur des chômeurs que vous punissez alors que les autres chômeurs sont en train de trouver du travail. C'est complètement accablant. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est que les gens qui ont de toute façon beaucoup de mal à retrouver du travail, ils vont finir au RSA. Et pourquoi vous croyez que dans la liste des exceptions, il y a les territoires ultramarins? Parce que les chefs
parce
de...
Que le chômage est très
parce que le chômage, parce que le parce qu'il n'y a pas de travail, parce que le chômage va pas, parce que le RSA
évident,
explose
évident,
déjà,
pour ça.
Et que ces gens-là vont passer du budget du chômage au budget au RSA, et que déjà ça explose, ça va surexploser.
Les territoires ultramarins sont en période rouge à vie.
Ça veut dire bien que le gouvernement sait très bien que ça va faire plus de pauvres, et que pour faire plus de pauvres là où il y en a déjà beaucoup, on peut pas le faire. C'est accablant à tout point de vue.
J'ai entendu votre avis. Laurent Vronsky, Isabelle Job-Basile, par rapport à cette réforme dont les détails ont été connus hier.
Je pense que quand on parle de l'assurance chômage, ça fait partie de ces totems qu'il y a dans notre pays. C'est des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder, ou quand on les aborde, il faut l'aborder avec l'angle du politiquement correct. Bon. Alors moi, j'ai une vision qui est un petit peu plus macro. J'entends ce que dit Christian. Simplement, je veux dire que notre pays aujourd'hui, est quasiment à bout de souffle. Je veux dire qu'on n'a plus la latitude qu'on pouvait avoir, on a une dette abyssale. C'est-à-dire, on ne peut pas éternellement continuer, je dirais, à croire que l'argent tombe du ciel.
64 milliards pour
l'UNEDIC de dette. Premier constat. Aujourd'hui. Deuxièmement, aujourd'hui, puisque Christian nous disait, les chefs d'entreprise sont focalisés sur le coût du travail. Aujourd'hui, la première préoccupation...
C'est l'énergie.
L'énergie, oui. Ça, c'est pour ceux qui...
C'est le recrutement.
C'est le recrutement.
Oui, le recrutement. Donc, c'est passé en deuxième maintenant.
Chaque personne peut faire un test, il fait le tour du pâté de maison, même de ses commerçants locaux, et on va lui dire, non, on ne trouve pas de boulanger, on ne trouve pas de garçon pour travailler dans le café, etc. etc. Donc, il y a un problème de recrutement. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est quand on voit le nombre de chômeurs qui existent dans notre pays, la demande qui est complètement dingue, puisqu'on est en train de mettre maintenant sur le débat public toutes les questions d'immigration. Est-ce qu'il faut donner des visas, pas des visas? Est-ce qu'il faut autoriser, pas autoriser? Enfin, on voit, ça déchaîne les passions. Je pense que de s'intéresser au sujet de l'assurance chômage, et je sais que c'est complètement tabou de dire que oui, tout le monde recherche du boulot, mais je veux dire, on va pas se voiler la face. Je veux dire, tout le monde connaît des gens qui tirent sur la corde. Donc, mais oui, tout le monde en connaît. Maintenant, la question, c'est comme souvent, c'est une question de proportion. Évidemment, on les a pas comptés un par un et on ne sait pas dire exactement de combien de personnes il s'agit.
Mais le ministère du Travail nous a dit, pardon, Laurent, 92% des chômeurs cherchent activement à travailler.
On s'attaque au sujet. Et je n'aime pas les termes de punition et de culpabilisation.
Ah oui,
qu'aujourd'hui, on s'intéresse au sujet et que l'on dise, voilà, je veux dire que qu'on ait des indemnisations chômage qui, quelque part, plutôt d'être dans l'absolu, se calent par rapport à la santé de l'économie.
C'est la durée d'indemnisation, pas le montant.
C'est la durée.
Donc, oui. mais je le précise.
Qu'on ait un système qui, en clair, épouse le terrain économique, moi, ça me paraît une bonne idée, c'est du bon sens. Maintenant, ça n'est pas le seul médicament. Et évidemment, pense que le deuxième médicament, c'est de trouver une passerelle pour que cette masse de gens qui n'ont pas de travail puissent, si vous voulez, être incorporés dans cette masse de gens qui ont besoin, justement, de collaborateurs. Donc, le traitement est incomplet. Ouais. Il y a ça. Et ça.
Et il y a tout l'accompagnement. Et c'est vrai.
Isabelle Job-Basile, par rapport à
cette... Du coup, c'est regarder pourquoi on a toutes ces difficultés de recrutement, alors même qu'on a un taux de chômage qui est encore.
7,3.
Qui est encore.
Mais c'est très bien
encore...
7,3, puisqu'à 9%, on est au vert.
Oui.
À 9% de chômage, tout va bien dans l'économie française. Il faut réduire les indemnités des chômeurs à 7,3, Isabelle. Mais c'est le monde rêvé. C'est le monde rose, selon le gouvernement.
Mais donc, comme je le disais, donc il faut regarder les raisons. Et en fait, il y a trois raisons qui sont souvent invoquées. Il y a bien évidemment les problèmes d'appareillement en termes de compétences, donc ça veut dire qu'il faut bien évidemment regarder comment on peut former notamment les gens qui sont les plus éloignés du marché
du
travail.
C'est un élément
clé, absolument. Donc il y a vraiment l'aspect accompagnement en termes de formation. Il y a des problèmes de mobilité, puisqu'en fait on regarde que les zones qui sont à fort taux de chômage et à faible taux de chômage eh bien, en fait, reste stable dans la durée. Donc, ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire bouger les gens. Donc, est-ce qu'il faut imaginer des mécanismes d'accompagnement au déménagement, etc., pour voilà, permettre ce meilleur appariement? Et puis ensuite, du côté des entreprises, on sait que dans certains métiers, il y a des problèmes d'attractivité, que ce soit en termes de salaire ou de conditions de travail.
Et ça, ce sont effectivement des éléments qui peuvent s'ajouter à cette réforme qui nous a été présentée hier. Mais vous considérez qu'elle est complètement
Moi, je suis assez inique. D'accord que ça épouse... Que ça épouse la conjoncture.
À 9%, on est bien ?
À 9%, non, on n'est pas.
9% de chômage, on passe dans le vert. On réduit.
En dessous, oui.
Oui, 9, combien ? Ouais. 7, 8, 5, 4,
3. Oui, c'est non, mais 9. C'est tout le problème des seuils.
C'est 9 ou une variation ?
Non, après, là où je. Mais là, ce que je dirais par rapport à Christian, là où il a raison, c'est que là où il y a 9, enfin, si au niveau national on a 9, ça veut dire qu'il y a des territoires qui vont se retrouver avec. En dessous de 9, il y a des territoires qui sont bien au-dessus de 9.
Et là, pour le coup, on n'a pas voulu régionaliser.
Mais je pense que
c'est le Canada qui l'a fait, justement par région.
Une usine à gaz.
Et là, pour être. Enfin, moi, la réflexion que je me suis faite hier, c'est de me dire, de toute façon, la nouvelle durée, c'est 18 mois plus 24. Voilà, c'est ça. Et ça va rester 18. Alors, il y a un plancher à 6 mois. Il n'y aura aucune indemnité inférieure à 6 mois.
Alors, après, ce que nous disent aussi les études, c'est qu'effectivement, plus on se rapproche de l'échéance, plus généralement, il y a une accélération dans la recherche.
J'ai envie de dire, c'est humain.
On a gagné 18 jours. On a gagné 20 jours.
Non, mais c'est humain. C'est comme celui qui a.
C'est un phénomène d'incitation.
C'est comme celui qui a un DST qui n'arrive pas à se mettre à réviser. Et puis, les deux jours avant, il finit par y aller. Parce qu'il y a un peu. Voilà, c'est bon. Oui, encore quelque chose.
Oui, ce que je voudrais. Laurent, je vais prendre, puisqu'on on a beaucoup parlé de l'Allemagne. Moi, je vais prendre un exemple d'un sujet où, clairement, pendant des décennies, le dogme, je dirais, a eu autorité sur le bon sens et sur le pragmatisme. C'est l'apprentissage. Et ça, je pense que c'est un bon exemple, parce que là pour les amateurs de chiffres...
Ça a progressé en France, l'apprentissage.
Voilà,
c'est même considéré comme sur-subventionné.
Ça nous coûte une blinde.
Ceux qui adorent les chiffres vont en avoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant des décennies, et surtout dans les métiers manuels dont nous faisons partie? Je veux dire qu'en clair, quand on était apprentis. Alors, on disait, ah ben non, les apprentis, c'est de la manœuvre bon marché, on exploite les jeunes. Puis après, au niveau éducatif, on vous collait dans un lycée professionnel, c'est-à-dire qu'en clair, vous étiez perdu pour la société, etc. Les Allemands n'ont jamais, je dirais, abandonné l'apprentissage. Au contraire, ils ont toujours considéré, qu'on soit ingénieur ou manœuvre, que c'était une part intégrante du cursus académique. Et donc, c'est ce qui explique. Ils ont aussi des problèmes, c'est pas non plus le paradis, mais ils ont su préserver une industrie, ils ont su préserver des métiers. Nous, il aura fallu des décennies pour qu'on s'attaque au sujet. On a fait une réforme de l'apprentissage qui est un vrai succès. C'est un franc succès. Et maintenant, il y a
8 000 euros l'entrée des plus de 18 ans.
Oui, et puis j'aurais tendance à
vous dire. Vous avez aujourd'hui.
Enfin, au moins, c'est de l'argent public probablement à peu près bien utilisé.
Vous avez énormément de jeunes qui sont dans les entreprises. Vous êtes, je rappelle qu'on a une pyramide des âges qui fait que vous avez énormément de gens qui partent à la retraite là, dans les 10 ans à venir. Il y a un besoin de transmettre, de former, etc. Donc je pense que c'est vital pour le pays, tout simplement.
Oui. Mais c'est encore beaucoup, pardon Isabelle, beaucoup d'investissements publics, c'est encore beaucoup de dépenses publiques. Et le modèle de la flexi-sécurité au Danemark, on réduit les indemnités chômage pour les gens, mais on répond aux problèmes de mobilité. On répond au problème de formation. C'est entre 4 et 5 points de PIB par an de dépenser. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 4 et 5 points de PIB par an de plus pour former les gens, pour accroître la mobilité en échange?
Je ne suis pas contre l'argent public. Je suis contre le quoi qu'il en coûte et je suis pour le mieux qu'il en coûte.
Et donc c'est la question de l'efficacité de la dépense publique.
Mieux qu'il en coûte.
Voilà, c'est la question de l'efficacité.
Isabelle Job, vas-y.
Non, mais par exemple sur l'apprentissage, je pense que notamment, puisqu'on dit que c'est largement subventionné, aujourd'hui, ça profite, semble-t-il, sur les derniers chiffrages.
En plus, oui.
Ça profite beaucoup pour les activités de service, pour les jeunes diplômés, qui sont sur des niveaux qui n'auraient pas de problème.
On est très conscient à Bercy de ce problème.
Donc c'est peut-être, pour le coup, c'est encore mesurer l'efficacité de la dépense.
Exactement. On va faire un peu de réglage.
Et il faut faire du réglage, bien sûr.
Voilà, il faut faire du réglage et dans une logique d'efficacité de la dépense.
On ne va pas développer parce que je voudrais juste donner la parole pour vous dire un mot des retraites à Christian. Mais voilà, la liste hier soumise par le FMI, ce que vous devez faire en France, c'est baisser des niches fiscales et baisser des dépenses. Les dépenses fiscales en faveur des combustibles fossiles, le crédit d'impôt recherche qui, on le sait, est bourré de défauts et d'effets d'aubaine, réduire le nombre de fonctionnaires, stopper les doublons entre les administrations territoriales et centrales, remettre à plat les minima sociaux car les régimes sont trop complexes, rémunérer les profs au mérite, baisser les dépenses de l'éducation nationale qui sont liées au personnel non enseignant. Voilà ce que nous dit le FMI.
Mais, attendez, il faut 5 quinquennats.
Après, il faudrait regarder.
Soyez pas naïf.
Naïf de quoi ?
J'ai travaillé 5 ans au commissariat général du plan. Comment vous croyez que les articles 4 du FMI, comment vous croyez que les recommandations de l'OCDE, ça se fait pour les économies nationales? Vous allez rencontrer les gens de Bercy qui vous disent tu peux mettre ça dans le truc. Donc là, vous avez du discours macronien.
Je sais bien que ça.
Donc c'est pas le FMI nous dit que la France va faire ça, c'est Emmanuel Macron qui dit.
C'est Emmanuel Macron. Voilà. D'accord, je sais bien qu'effectivement, ça se fait en accord avec le pays, mais c'est pas complètement. Mais tout ce qui est là-dedans n'est pas complètement aberrant.
La Cour des comptes. Vous voulez de l'argent? Je vais vous donner 80 milliards d'euros. Vous voulez 80 milliards d'euros?
Je ne sais plus comment vous faites, mais. Vous me l'avez déjà fait.
Et Laurent veut bien un petit peu. Les 80 milliards d'euros.
Pour payer ma facture d'électricité.
Il va tendre la main pour sa facture.
On a 2,40.
La Cour des comptes, à la fin juillet, fait un état des lieux, comme est fait chaque année l'état budgétaire de la France. Et la Cour des comptes, quand vous faites les baisses d'impôts, la somme des baisses d'impôts de Macron 1, ça fait 65 milliards. Les baisses d'impôts de Macron 2, et encore, comme le dit justement Bruno Le Maire, ils ont repoussé la baisse d'impôts sur les successions, l'allègement de la baisse d'impôts. Ça fait 15 milliards de plus. On est à 80 milliards de. Est-ce que si vous avez besoin d'argent, si vous vraiment vous avez besoin d'argent.
On monte les impôts, ça, oui.
Non, on n'augmente pas. On ne les baisse pas. On revient pas au socialisme, on revient pas à l'URSS en 2017. Juste, on perd pas 80 milliards d'euros de recettes si vraiment vous voulez lutter. Bon. Et moi, ce que j'aime bien chez Emmanuel Macron, c'est que le déficit budgétaire, il en a rien à faire, et que le coût de la dette, il se dit à 110% du PIB, on peut monter à 130, 140, 150. La France a toujours remboursé sa dette depuis la Révolution française.
Oui, non, mais il n'y a pas de défaut.
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de défaut. Donc,
simplement, on conserve malgré tout notre quasi-record de prélèvement obligatoire. Donc, c'est peut-être. Non,
mais on a notre quasi-record du fait qu'on a peu de retraités pauvres. Qu'on rémunère bien les chômeurs, qu'on a des bonnes retraites et qu'on peut partir plus tôt. C'est un modèle social qu'on défend. Vous pouvez l'attaquer. Moi, je le défends.
Moi, je reste sensible à ce qu'on s'est dit sur la question de l'efficacité de la dépense publique.
C'est la question.
Et
la
protection sociale, c'est dépense publique efficace. Et ne plus être dans l'obligation de moyens, mais une obligation de résultats. C'est-à-dire de changer de logique sur la manière dont on envisage
le terme est dur.
Les dépenses au lieu d'empiler.
On a une 20. Pourquoi il est absurde de reporter l'âge de départ? Vraiment, en guise de teasing, parce qu'on n'a pas de
Parce qu'on a l'exemple de passage de 60 à 62 ans et que ça a fait augmenter de 20 points le taux d'emploi des 55-64 ans, c'est très bien, sauf que donc on est passé en gros de 35 à 55 de taux d'emploi. Donc on reste très en dessous des autres pays, donc c'est loin de faire le job. Et derrière, on a, si vous regardez les ouvriers, le taux d'emploi c'est 25%. Si vous regardez les non-diplômés, c'est encore plus bas. Donc c'est juste, encore une fois, une façon. Et on a même un papier qui montre bien que c'est pas simplement un problème des non-diplômés ou des ouvriers, c'est que les cadres en ont marre et ne veulent plus rester au travail. Parce que la façon, je ne vais pas détailler, mais la façon dont on se réorganise dans les grandes entreprises, même les cadres, même les gens qui pourraient être tranquilles jusqu'à 65 et 67, en ont marre et veulent sortir. Donc par le bas, par le milieu, par le haut, tout le monde veut sortir. Donc dire, vous allez travailler encore plus longtemps, vous allez encore faire plus payer ça aux gens qui sont précaires, ça va dans le même sens que la réforme du chômage. C'est ce gouvernement, c'est l'objectif de ce gouvernement, c'est de finir de tuer l'État social.
Après, comme vous l'avez dit, le 60-62 ans, ça a effectivement augmenté le taux d'emploi et c'est quand même
mais pas suffisamment, mais et vous laissez de côté les plus précaires. Alors si vous voulez laisser de côté les plus précaires parce que ça fait monter le taux d'emploi, c'est un choix, c'est le choix du gouvernement, malheureusement. Il fait ce choix.
On a fini. J'avais plein de choses vous reviendrez, j'espère. Il y a plein de sujets dans ce que j'avais envoyé. Bon. Il y a eu ce chiffre là. Un jeune sur quatre ne fait plus confiance aux médias.
Trois jeunes sur quatre, faut qu'on peut dire juste une phrase.
Je m'adresse justement à ces jeunes. Ne croyez pas que la vie se résume en 140 caractères.